À ouvrir votre Bible avec moi dans le premier livre des rois au chapitre 19. Premier livre des rois, chapitre 19. Nous en lisons les 14 premiers versets. Nous lirons la totalité du texte pour notre dernière étude de demain matin. Donc, 1 roi 19, je lis pour vous à partir du verset 1er. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, environ 100 kilomètres au sud, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'en est trop. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange !» Il regarda, il y avait là, à son chevet, un gâteau cuit sur des pierres chauffées, une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb, ce qui représentait environ 400 kilomètres de voyage. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressé en ces mots, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit, « Sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu, et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. » Nous sommes donc au seuil d'une sixième étape dans notre temps d'arrêt sur cet épisode douloureux de l'histoire du prophète Élie. Nous avons au programme cet épisode, cette étape successive, la dernière étant fixée à demain matin. Et jusqu'ici, je le dis à l'endroit en particulier de nos amis qui nous ont rejoints, nous avons tout d'abord, dans une première étude, considéré ce paradoxe, ce contraste saisissant, interpellant, d'un homme de Dieu d'envergure exceptionnelle, d'immense qualité, solide comme le roc, et qui pourtant va subitement connaître un crash, va craquer de manière impressionnante. C'est là le récit que nous avons parcouru ensemble. Ceci nous a conduit à souligner deux conclusions d'emblée. La première, ne nous croyons jamais trop forts. Ne disons jamais, jamais. Ne pensons surtout pas que une telle expérience n'est pas pour nous, que nous sommes au-dessus de tout cela. Nous avons évoqué une galerie de portraits d'hommes de Dieu qui, aussi bien dans les Écritures que dans l'histoire du peuple de Dieu et de l'Église, ont été des personnages éminents, mais comme notre ami Élie, ils étaient de la même nature que nous. Et puis la deuxième conclusion a été pour dire ne nous croyons pas non plus trop faibles. Trop faibles pour en sortir. Parce que les Écritures sont éloquentes. Elles sont un grand encouragement pour nous, puisque cette galerie de portraits est constituée de personnages qui, après avoir connu ce terrible 36e dessous, le découragement, voire de graves dépressions, ont été sortis de là par la grâce de Dieu et ont été ensuite utilisés par Dieu, richement bénis par Dieu, comme nous le verrons encore d'ici demain. À partir de cette introduction, nous sommes attelés à l'approche de la première des sept causes que l'on peut détecter dans 1 roi 19 et qui peuvent expliquer le découragement d'Élie et aussi nos découragements. La première de ces causes, nous l'avons immédiatement identifiée comme étant les circonstances difficiles que traversait le prophète dans le cadre politique, religieux, économique, moral, qu'il connaissait au sein de la société d'Israël dans le royaume du Nord. Et nous avons donc brossé assez rapidement une sorte de toile de fond consacrée à l'état de la nation, comme on dit, à l'époque où Élie surgit sur la scène de l'histoire. Et nous avons vu que tous les ingrédients étaient rassemblés pour rendre le ministère d'Élie extrêmement difficile. Mais après avoir quelque peu examiné ces circonstances difficiles, et en particulier cette lettre terrible apportée de la part de Jézabel par le facteur à Élie, qui vivait sur un sommet, qui venait de vivre une victoire spirituelle éclatante dans le chapitre précédent, nous avons aussitôt souligné qu'en réalité, les circonstances difficiles n'étaient que une sorte de bouc émissaire, une justification facile. C'est là notre habitude d'accuser les événements, les circonstances, les personnes, notre entourage, notre éducation, notre passé, que sais-je encore. Et nous avons remarqué qu'en réalité, le problème clé dans le découragement profond d'Élie s'appelle l'apitoiement sur soi-même. Et ceci nous a conduit à considérer trois remèdes à l'apitoiement sur soi pour quitter le terrain du découragement. Le premier de ces remèdes consiste à changer la direction de notre regard, puisqu'il y a eu chez Élie un décrochage du regard. Le regard d'Élie a quitté Dieu pour se fixer sur les circonstances, et ensuite Élie a regardé à lui-même. Ayant vu cela, ou Élie voyant cela, se leva. Nécessité donc de changer la direction de notre regard, de regarder dans la bonne direction, de regarder en haut. Et nous avons essayé de voir ensemble ce que cela signifiait. Et puis le changement de direction de notre regard nous a inévitablement entraîné vers un changement dans la qualité de notre regard. Et c'est là que nous étions arrivés hier, changement dans la direction de notre regard, changement dans la qualité de notre regard, développer de saines réactions dans nos difficultés. Nous avons évoqué la place de la reconnaissance, de l'action de grâce, de la louange, non comme une sorte de fétichisme, d'incantation, de moyen magique de changer les mentalités, les situations, ou d'incliner le cœur de Dieu, parce qu'il existe une mode très forte sur la question à l'heure actuelle. Non, pas du tout. C'est de la qualité de notre relation avec Dieu que dépend une louange authentique, une reconnaissance authentique qui ne doit jamais être coupée de sa source. C'est Dieu qui en réalité est l'auteur de nos élans de reconnaissance. Nous n'avons aucun mérite dans ce fait. Et puis nous en sommes arrivés dans ce cadre à évoquer en particulier le drame du prophète Jérémie après 40 ans de ministère, lorsqu'il erre au milieu des ruines de Jérusalem et qu'il a sous les yeux un spectacle horrifiant qui le retourne complètement et qu'il va ensuite laisser pour la postérité jusqu'à nous. Ce petit livre intitulé « Les Lamentations de Jérémie ». Et nous avons essayé rapidement aussi au travers des Lamentations de Jérémie d'entrer dans la manière dont Jérémie a appris à orienter ses pensées dans la bonne direction, dans ce beau texte que je vous rappelle de Lamentations 3, qui est l'axe central de l'ensemble de ce livre, versets 19 et suivants. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et nous avons remarqué ensemble que Jérémie discipline ses pensées. Il cultive celles qui glorifient le Seigneur au lieu de ressasser ses problèmes. Et il rejoint en cela le rédacteur inspiré des psaumes 42 et 43, les fils de Corée, qui, dans ce long cantique coupé en deux, 42-43, revient à diverses reprises avec cette interpellation de son âme, verset 6, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, attends Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain. » Même chose au verset 12. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et ceci revient une troisième fois dans la fin de ce long cantique, verset 5 du chapitre 43, du psaume 43, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Attends Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. » Et ceux d'entre nous qui ont vécu ce temps libre depuis le début se souviennent que nous disions, d'ailleurs c'est hier si je me souviens bien, que dans les Écritures et dans l'Ancien Testament, l'hébreu a un superlatif tout à fait particulier dans la triple répétition d'une vérité. Quand une vérité est portée à son zénith, à son sommet le plus élevé, parce qu'elle doit accrocher le cœur à quelque part, Dieu la répète trois fois. Et vous remarquez qu'ici c'est le cas, si nous considérons que les psaumes 42 et 43 ne formaient à l'origine qu'un seul cantique, vous remarquez qu'à trois reprises revient cette parole « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ? Attends, Elohim, attends Dieu. » Nécessité d'interpeller son âme. Non seulement prier Dieu, mais impérativement interpeller son âme, ne pas laisser notre âme nous parler, mais parler à notre âme. Lui donner des ordres. Notre âme est un monde mouvant, un monde extrêmement sensible dans lequel les émotions occupent une grande part. L'âme n'est pas le cœur dans les Écritures. Le cœur, généralement, dans les Écritures, dans près de 1000 passages des Écritures où le terme cœur est utilisé, le cœur est avant tout le quartier général de notre individualité. Ce sont les profondeurs de notre personne, ce QG dans lequel se prennent toutes les décisions fondamentales, se tissent les raisonnements, les décisions, dans lequel travaille notre intelligence, s'exprime notre mentalité, accessoirement le monde des sentiments et des émotions, mais véritablement, vraiment le cœur de l'individualité. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On comprend pourquoi il y a des textes très forts dans les Écritures sur le cœur. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. D'abord le cœur, parce qu'en réalité, il englobe toute la suite. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le cœur qui est l'élément central. Alors ici, il est question de s'adresser d'une manière particulière à son âme, pour l'esprit doit en quelque sorte dominer l'âme et l'orienter dans la direction de la pensée de Dieu. Le découragement est donc aussi quelque chose qui se refuse. Le découragement est quelque chose qui se refuse. Et c'est ce qui me conduit à redire cet après-midi ce troisième remède. Après la direction et la qualité du regard, je veux parler de la discipline de nos pensées. Pratiquer la discipline de nos pensées. Par exemple, se refuser de parler tout le temps de ses malheurs. C'est facile de passer de l'un à l'autre pour redire ses malheurs, et de s'enfoncer ainsi dans une spirale de destruction et de découragement. Et parfois, hélas, nous sommes sollicités à le faire. Il n'est pas toujours très sage, quand on sait que quelqu'un connaît des difficultés, de l'inciter à vider son cœur. Nous verrons que c'est une chose bonne, mais qui nécessite de la mesure, parce que si quelqu'un ne fait que cela dans sa journée, ça ne va certainement pas l'aider à quitter certaines ornières, l'ornière du monde des pensées. Et nous creusons vite des ornières dans le monde de nos pensées. Du temps de la conquête de l'Ouest, dans ce que sont devenus les États-Unis, on pouvait lire à l'entrée d'une piste fréquentée par les lourds chariots qui transportaient ces pionniers de l'Ouest, on pouvait lire cette indication: surtout ne vous installez pas dans l'ornière de ce chemin, parce que vous en aurez pour 25 000. Vous ne pourrez plus en sortir. Avec la pluie, avec le poids des chariots, l'ornière s'est faite de plus en plus profonde et vous serez absolument incapable de prendre une autre route. Et le danger est grand dans nos vies de creuser des ornières dans notre mentalité, dans notre manière de penser. Et plus nous cultivons des pensées négatives, plus nous cultivons le mécontentement, l'amertume, la rancune, l'esprit de critique sur tout et rien, plus l'ornière s'enfonce et plus il devient difficile d'en sortir. De quelle sorte de pensée le jardin de notre être intérieur est-il ensemencé? De quelle sorte de plantes? Vous savez que c'est très intéressant dans le domaine des plantes, parce que nous avons des plantes au nom souvent très suggestif. Je sais qu'il existe des misères, entre autres, il existe aussi des soucis, et nous pourrions continuer à faire jaillir un certain nombre de plantes qui, si elles sont belles, intéressantes, n'en sont pas moins négativement suggestives. Alors de quelle sorte de plante le jardin de nos pensées, de notre être intérieur est-il ensemencé? Est-ce que nous gardons, par exemple, ce qui nous rappelle de mauvais souvenirs? Je me souviens, au début de notre ministère en Bretagne, nous avons pendant assez longtemps visité une veuve qui s'intéressait à l'Évangile, et qui avait perdu son mari dans des circonstances tragiques, puisqu'il s'était pendu. Et nous réalisions bien qu'il y avait un blocage à quelque part dans la vie de cette veuve qui piétinait dans sa mentalité. Nous ne sentions pas chez elle de progrès, malgré nos échanges permanents, malgré son désir d'aller plus loin, jusqu'au jour où, à la faveur d'un entretien, nous avons découvert, parce qu'elle est allée ouvrir un tiroir, qu'elle gardait dans ce tiroir un morceau de la corde avec laquelle son mari s'était pendu. Alors, vous comprenez, nous devrions peut-être parfois simplement faire un peu de ménage. Il est des lettres, il est des documents, et parfois d'autres éléments matériels qui peuvent faire ressurgir dans notre mémoire et notre mémoire immédiate et dans notre cœur toutes sortes de démanations douloureuses qui vont nous plonger dans le découragement. Il faut savoir dans sa vie couper en quelque sorte avec tout ce qui peut nous rappeler des mauvais souvenirs. Nous pourrions évoquer l'usage de la télévision, à laquelle nous ajoutons aujourd'hui Internet. Je n'ai pas du tout le désir de me prononcer pour ou contre les instruments en eux-mêmes, parce que le vrai problème n'est pas là. Quoique je sache par expérience que, hélas, la télévision a fait de terribles ravages dans l'Église de Jésus-Christ. Étant donné qu'il est extrêmement difficile de gérer convenablement l'usage de cet instrument. Il suffit d'être un peu fatigué, et puis il faut dire que les programmes posent aussi de plus en plus de problèmes. Nous ne sommes pas dans un monde où tout s'arrange, bien loin de là. Et disons-le, l'usage abusif ou inconsidéré, sans discernement, trop généreux du petit écran, n'est pas pour favoriser la discipline des pensées. Il faut savoir que c'est exactement l'inverse qui se fait. Je me souviens, il y a quelques années, avoir présidé une retraite de rentrée de l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, et à l'issue d'un des exposés, un des élèves qui commençait sa troisième année d'études est venu vers moi dans un état de catastrophe tout à fait évident. Et il m'a dit, écoutez, j'ai un énorme problème, je rentre de vacances, c'était la retraite de rentrée, donc en septembre ou début octobre, et je commence ma troisième année, je me prépare pour le service de Dieu, et je suis affolé, parce que je me rends compte que dans ma rencontre quotidienne avec le Seigneur chaque matin, dans même mes révisions, mon travail de lecture et d'études, je ne retiens absolument rien. Je ne réussis pas du tout à me concentrer et je suis angoissé. Et je pense simplement, inspiré par le Seigneur dans ce moment, tout de go, je lui ai dit, mais mon ami, quelle place occupe la télévision dans ta vie ? Et j'ai eu le sentiment qu'il était en train de subir un véritable électrochoc. Il m'a regardé et il m'a dit, mais c'est mon problème. Et il m'a raconté comment il avait vécu pendant son été une véritable cure de télévision, une véritable boulimie de télévision. Et après que nous ayons longuement évoqué la chose, je lui ai dit, écoute, je te propose maintenant, puisque nous avons mis au point le diagnostic, je te propose les médicaments adaptés à ta situation. Alors je vais te faire une ordonnance et je vais te proposer deux médicaments liés à l'usage de la télévision et aux dégâts qu'a opéré la télévision dans ton système de pensée. Et la première chose que je lui ai demandé était très simple. Je lui ai dit, écoute, il va falloir que chaque matin, au lieu de méditer les Écritures de manière cérébrale, sans rien dire, comme trop souvent nous le faisons généralement, eh bien tu vas lire le texte de ta réflexion et les autres versets que tu y ajouteras, mais tu les liras à voix haute. Parce que c'est ce qui va t'aider à faire fonctionner un certain nombre de cellules dans ton cerveau qui, hélas, sont devenues très paresseuses, qui ne sont pas du tout stimulées par la relation étroite avec le petit écran, bien au contraire. Ça, c'est le premier élément de cette ordonnance. Prends beaucoup de temps dans ces semaines à venir pour murmurer les Écritures, puisque c'est le cas du peuple d'Israël, je le disais hier. C'est aussi inscrit dans le texte biblique à diverses reprises. C'est ce que, par exemple, l'Éternel dit à Josué dans Josué 1:8. Médite la parole continuellement, jour et nuit. Littéralement, dit le texte hébreu, murmure la parole jour et nuit. Que ça ne reste pas simplement dans ta tête. Le monde de tes pensées doit être influencé, il faut que tu entendes en quelque sorte en même temps ce que tu es en train de lire dans ma parole. Et puis le deuxième élément de cette ordonnance a été de lui dire, eh bien, non seulement tu vas lire à haute voix, mais tu vas prendre ta plume, ouvrir un cahier et tu vas copier les Écritures, parce que là encore, la copie des Écritures qui occupe qui a occupé dans l'histoire d'Israël une grande place, et dans les Écritures elle occupe aussi une grande place, est trop négligée dans nos vies, et elle est importante parce qu'elle nous permet là aussi de mettre à l'œuvre un certain nombre d'éléments dans le fonctionnement de notre cerveau qui sont importants parce que Dieu veut que nous aimions que nous l'aimions avec la totalité de notre cerveau et pas simplement avec un certain nombre d'éléments en laissant dormir d'autres éléments. Mon épouse pourrait vous le dire, c'est un témoignage qu'elle pourrait rendre, mais je le rends en son nom, a passé 15 ans à copier la Bible totalement de la Genèse à l'Apocalypse, à partir du moment où, avec notre ministère dans une église en pleine croissance, et la croissance de notre propre famille avec nos enfants, la fatigue se faisait de plus en plus sentir, il devenait difficile de méditer sans s'endormir sur la Bible et en interrogeant Dieu sur la manière de remédier à ce problème qui peut nous arriver à chacun à certains moments de notre vie, Dieu l'a interpellé, lui a dit « Mais pourquoi est-ce que tu ne copierais pas ma parole ?» Et cela fait donc maintenant plus de 20 ans, 25 ans peut-être, sinon plus, qu'elle copie chaque jour les Écritures. Et sa première Bible copiée à la main est entre les mains d'une exposition biblique maintenant en France. Et elle est en train de faire une deuxième copie des Écritures. Et moi-même, j'ai copié une quantité de livres des Écritures. Et je peux en dire que nous en avons tiré, elle et moi, le plus grand bien. Alors je vous encourage, précisément pour que nos pensées puissent être disciplinées par le Seigneur. Nous vivons, je l'ai dit hier, dans un temps où la psychologie moderne nous invite à laisser au monde de nos pensées la bride sur le cou. Il paraît qu'il est sain de fantasmer aujourd'hui, il paraît que ça ne fait pas de mal aux autres parce que ça se passe en nous, ben ce n'est pas vrai. Ce que l'on fantasme, on l'exprime tôt ou tard en direction des autres et de toute manière cela a déjà un effet destructeur sur nous-mêmes. Le Seigneur veut être Seigneur du monde de nos pensées. Un homme de Dieu de notre temps qui a écrit un bon nombre de livres traduits en français écrit ceci, « Semer pour satisfaire sa propre nature revient à céder à ses exigences, à la caresser et à la dorloter au lieu de la crucifier. Les semences que nous semons se composent essentiellement de pensées et d'actes. Chaque fois que nous permettons à notre esprit de garder de la rancune, d'entretenir un grief, de laisser libre cours à une pensée impure ou de nous complaire dans l'apitoiement sur nous-mêmes, nous semons pour satisfaire notre propre nature. Chaque fois que nous restons en mauvaise compagnie dont nous sommes incapables de résister à l'influence néfaste, chaque fois que nous traînons au lit au lieu de nous lever et de prier, chaque fois que nous lisons de la littérature pornographique, et ne dites pas qu'on ne le fait pas, je pourrais passer du temps à vous raconter des drames que nous connaissons actuellement d'hommes et de femmes engagés dans l'Église de Jésus-Christ et qui viennent de chuter tout simplement parce que la littérature ou les vidéos porno ont pris de la place dans leur vie personnelle. Un de mes meilleurs amis du passé, et comme je voyage beaucoup, vous ne pourrez pas savoir qui c'est, un de mes meilleurs amis, vient de vivre, il y a relativement peu de temps, un terrible effondrement qui a entraîné la dislocation de sa vie de famille complète. Tout simplement parce que il n'avait pas réglé certains problèmes dans sa vie au niveau de ses pensées. Et il a fini par utiliser ses nuits de manière clandestine pour regarder des films porno chez lui. À l'insu de son épouse, qui se doutait bien que quelque chose ne tournait pas rond, parce qu'il y avait effectivement des répercussions dans un certain nombre de domaines. Et puis un jour, eh bien, l'Église l'a découvert, tout simplement parce qu'il y a eu un échange de cassettes vidéo, et que par erreur, il a mis dans le paquet à destination d'un membre de l'Église une de ses cassettes porno. Le foyer est complètement disloqué. Et je peux vous dire que j'ai entendu ces dernières années, dans les entretiens personnels, les drames liés précisément à cette indiscipline dans le monde de nos pensées. Chaque fois donc que nous lisons de la littérature pornographique, chaque fois que nous courons le risque de perdre notre maîtrise de nous-mêmes, nous semons et semons encore pour satisfaire notre propre nature. Certains chrétiens sèment quotidiennement pour satisfaire leur propre nature et se demandent pourquoi ils ne récoltent pas la sainteté. La sainteté est une moisson. Par conséquent, pouvoir la récolter dépend presque entièrement de la nature et de la semence et de l'endroit où nous la semons. Vous avez ce texte du Nouveau Testament de Philippiens chapitre 4 qui est très intéressant à cet égard, et je disais hier à quelqu'un qui me parlait de ce texte que dans une étude personnelle de cet épître aux Philippiens, pour traiter dans un séminaire de l'approche de la pensée dans les Écritures, j'avais découvert que le texte grec de l'épître aux Philippiens contient 18 mots différents dans le vocabulaire qui ne tournent qu'autour de la pensée. 18 termes différents qui traitent du monde de la pensée dans cet épître aux Philippiens. Et on peut donc d'autant mieux comprendre Philippiens chapitre 4. Je lis à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'emphase doit être mise sur cette expression dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Et le mot inquiétude, dans son étymologie grecque, signifie une division de la pensée. C'est un écartèlement de la pensée, une faille, une sorte de schisme dans la pensée qui perd son unité. Donc l'ennemi réussit à créer une cassure dans le monde de nos pensées. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, c'est encore le monde de la pensée, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soit l'objet de vos pensées. C'est presque dommage d'avoir traduit comme cela, parce que l'idée du mot qui est utilisé dans l'original est une idée mathématique. Nous avons un verbe qui signifie en langage comptable tout simplement mettre au compte de. Ne stockez pas n'importe quelle information dans l'ordinateur de vos pensées. Voilà ce que dit le texte. Comment gérons-nous le monde de nos pensées? Ne pas stocker n'importe quelles informations dans les mémoires de nos ordinateurs vivants, mais bien plutôt remplir de choses excellentes nos pensées, de choses qui glorifieront le Seigneur. Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Et puis nous avons un dernier texte à prendre. Dans l'Ancien Testament, je ne peux pas sauter par-dessus. Il se situe dans le prophète Ésaïe au chapitre 40, dans le début de ce que l'on a appelé le livre de la consolation, qui va jusqu'au chapitre 66, dans ce merveilleux prophète Ésaïe. Et vous avez à la fois au chapitre 40 le début du grand livre de la consolation et aussi le début de tout un enseignement sur la doctrine de Dieu qui va des chapitres 40 à 48. Et nous allons nous pencher tout à l'heure et demain matin sur la doctrine de Dieu. Ce sont des chapitres de théologie pure dont nous avons vraiment besoin. Et vous remarquerez, on va prendre peut-être rapidement le texte à partir du verset 12. Verset 12. Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, ramasser la poussière de la terre dans un tiers de mesure? Qui a pesé les montagnes au crochet, les collines à la balance? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel? Et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Que de questions. Et que de questions qui simplement nous amènent, nous conduisent à une réponse, c'est que Dieu ne doit rien à personne. Dieu n'est le débiteur de personne. Qui peut se comparer à l'Éternel? Et les versets 12 à 14 nous indiquent dans ses œuvres. Qui peut se comparer à l'Éternel dans ses œuvres? Quand nous considérons Dieu. Dans Job 41:2, il est dit: de qui suis-je le débiteur? Je le paierai car sous le ciel, tout m'appartient. Première affirmation. Versets 15 à 17 maintenant. Voici les nations. Donc une comparaison entre Dieu et les nations. Pour souligner que Dieu est l'unique, que rien n'est comparable à Dieu. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Il est question de ces vastes forêts de cèdres du Liban de cette époque. Et quand on sait ce que sont les cèdres du Liban, mon épouse et moi, nous avons eu l'occasion de vivre 3 semaines extraordinaires pour nos 25 ans de mariage il y a quelques années au Liban et en Syrie. Et nous sommes montés à 2000 mètres d'altitude pour voir les derniers vieux cèdres du Liban, les cèdres de Dieu, comme on les appelle là-bas. Et au détour d'une route qui serpente et qui arrive dans une zone complètement désertique, complètement érodée sur ces hauteurs impressionnantes de cette chaîne, subitement, une oasis de verdure extraordinaire et des géants, de vieux géants qui ploient sous des millénaires, puisqu'il y a quelques dizaines de ces cèdres qui ont pratiquement 3000 années d'existence, puisqu'ils datent de l'époque de Salomon. Et alors on pénètre dans ce jardin des cèdres de Dieu avec toutes sortes de documents, et j'ai pu voir le travail des médecins des cèdres du Liban, des cèdres de Dieu, qui montent sur des échafaudages et qui mettent toutes sortes de pommades. Pourquoi? Parce que ça, c'est le drame de la terre entière. La pollution fait des dégâts terribles. On a peur de perdre ces cèdres aujourd'hui. Et donc, il faut les soigner à cause de ces minuscules bestioles, etc. N'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Alors, un tel texte rappelle cela de manière très très forte. Le Liban ne suffit pas pour le feu. Ces animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité, mes amis. Voilà ce que sont les nations au regard de Dieu. Versets 18 à 20. Contraste entre Dieu et les idoles. À qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole, c'est un orfèvre qui la couvre d'or et y soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Quand on pense, hein? Dieu à côté des idoles. Versets 21 et 22. Comparaison entre Dieu et le monde, la terre. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et le terme hébreu peut être aussi rendu par le mot sphère. Ce qui est très intéressant, parce que un texte comme celui-ci, souvenons-nous, date Ésaïe 40, c'est aux alentours de l'an 7, un peu après, entre 680 et 700 avant Jésus-Christ. Voyez, on parlait donc déjà du cercle ou de la sphère terrestre à cette époque. Ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Puis enfin, comparaison entre Dieu et les grands de ce monde, versets 23 et 24. C'est lui qui réduit les princes à rien, qui fait des juges de la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés, leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux, ils se dessèchent et un tourbillon les emporte comme le chaume. Versets 25-26, comparaison entre Dieu et le monde des astres, des étoiles. « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble ?» dit le Saint. Nous reviendrons sur cette expression. « Levez vos yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses ? Qui fait marcher en ordre leur armée ? Il les appelle toutes par leur nom. » Il doit avoir une sacrée mémoire, hein ? Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Et après avoir donc argumenté, avoir fait défiler toutes sortes d'éléments clés du cosmos pour les comparer à Dieu, vient la grande question. Pourquoi, verset 27, dis-tu Jacob ? Pourquoi, dis-tu Israël ? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant moi. Donc je reprends au verset 27 ce reproche du peuple d'Israël à l'Éternel. Tu es injuste, tu es un Dieu instable, tu es un Dieu versatile, tu es un Dieu indifférent, tu es un Dieu non fiable. Voilà ce qui se cache derrière ce verset 27. Tous les griefs qu'Israël avait à l'égard d'un Dieu dont ils avaient une vision complètement déformée à cause de leur péché. Et alors la réponse de Dieu, ne le sais-tu pas ? Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, il ne fait point la sieste. Pardon, c'est pas dans le texte. Mais c'est quand même dans 1 Roi 18 au sujet des Baals. Hein, je l'ai dit à Toulon. Hein, criez un peu plus fort, puisque votre Baal roupille. Hein, ou il est peut-être en voyage. Ou il est ailleurs dans ses pensées. Mais regardez cela, il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents, oui, même les adolescents, hein, se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez, le texte est très beau, je vais simplement remplacer un verbe français par le verbe le plus littéral du texte hébreu, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel échangent leur force. Vous pouvez le mettre dans la marge, c'est ce que dit le texte. Ceux qui se confient en l'Éternel échangent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. C'est donc une invitation à contempler la majesté de l'Éternel, à contempler sa toute-puissance, à contempler sa souveraineté absolue, de manière à pouvoir ensuite faire des échanges. Je pense aux enfants qui échangent les timbres, les pins et toutes les autres fourmis de notre temps, et qui sait si les modes se succèdent dans ce domaine. Mais nous pouvons aussi faire des échanges, nous, adultes, n'est-ce pas ? Échanger avec Dieu. Seigneur, je viens avec mon découragement, et j'ai besoin de ta force. Et il est riche ! Il est riche ! Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'infinie richesse de notre Dieu, le vocabulaire biblique sur la richesse de Dieu, les verbes qui se traduisent par « donner » dans les Écritures, c'est absolument extraordinaire. Nous avons un Dieu riche, nous pouvons échanger notre découragement contre sa force, nous pouvons convertir nos mets de tristesse en mets de victoire. Seigneur, je viens, je fais échange avec toi. Combien de fois je l'ai dit au Seigneur? Seigneur, je suis sur les rotules, j'en peux plus. Seigneur, j'ai besoin de faire un échange avec toi. S'il te plaît, donne selon le besoin. Si tu veux que je te serve, donne. Parce que sinon, je ne peux pas. Vous savez, quel père qui est un vrai père ne répondrait pas à son enfant? Et quand on pense à ce qu'est notre Père céleste. Mais nous y reviendrons. Alors j'ai mis aussi en dessous cette question, quelle sorte de littérature nourrit notre cœur? Toujours pour la discipline des pensées. Quelle sorte de littérature nourrit notre cœur? Colossiens chapitre 3 verset 16, hein, vous connaissez ce texte absolument extraordinaire, tellement important d'ailleurs pour les Colossiens, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Dans toute sa richesse. Et exhortez-vous ou avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. C'est Colossiens chapitre 3, verset 16. Et puis vous avez Hébreux 12, versets 1 à 3. Considérez Jésus. Considérez Jésus. Tournant les regards vers Jésus. Et là aussi, le texte grec est extraordinaire. Parce que si vous avez déjà regardé un match de rugby, il y a dans le rugby un geste qui correspond exactement au verbe grec avec sa préposition, et qui est utilisée à une déclinaison particulière. Je ne vais pas vous entrer dans tous ces détails, mais la formulation de ce verbe est passionnante. Quand vous voyez des joueurs en ligne sur un terrain de rugby et qui se passent le ballon ovale, hein, ils regardent d'un côté, hein, pour voir ce qui vient, et puis ils font ce geste, hop ! C'est exactement le mouvement de ce verbe grec, la manière dont il est décliné. En vous détournant, vous arrachez de l'arrière et vous faites le geste de lancer le regard de votre cœur vers le Seigneur. Où la parole de Dieu est extrêmement vivante. On ne peut pas toujours le rendre comme on le voudrait, mais c'est là le rôle de l'enseignement. Considérez Jésus, Hébreux 12, 1 et 3, afin de ne pas se fatiguer l'âme découragé. C'est un texte sur le découragement. C'est un texte sur le découragement. Alors récapitulons simplement en 8 points. Je ne fais que les citer sans les commenter parce que nous voulons introduire notre cause numéro 7. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Je pose 8 questions. Elles sont enregistrées. Vous pourrez les retrouver sur cassette. Premièrement, y a-t-il des péchés secrets non mis en lumière et confessés? Parce que cela prédispose au découragement. Jalousie, rancune, impureté, malhonnêteté, etc. Deuxièmement, y a-t-il de la pitié de soi se traduisant en murmure, révolte, gémissement, accusation? Nécessité de confession. Troisièmement, prenons-nous la décision de refuser le découragement comme venant du démoralisateur. Ça, c'était au début de notre série. Nous avons affaire au démoralisateur. Satan est le père du découragement. Et là, j'ai noté un texte que je dois vous lire. Il faudrait commenter tout le petit livre d'Habacuc, qui est un livre extraordinaire, encore un de ces personnages lumineux et d'une droiture de cœur, un homme appartenant certainement aux Lévites, il était affecté, selon le judaïsme, à la louange de l'Éternel, et il a certainement prophétisé dans les années 610, 609, 608 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire lorsque notre ami Daniel était en train de sortir de l'enfance. Il n'allait pas tarder, quelques années plus tard, à être déporté, 605, n'est-ce pas? Et donc, probablement, Daniel a aussi été au bénéfice du ministère du prophète Habacuc. Habacuc qui est complètement désemparé, retourné, qui commence à se décourager parce que le peuple de Juda est en train de s'enfoncer dans le péché d'une manière absolument écœurante, au point que finalement, l'indignation de ce Lévite jaillit même contre l'Éternel. Comment est-ce que tu peux supporter cela? Comment, toi qui es saint, tu peux accepter que ton peuple vive dans l'iniquité de cette manière? Comment est-ce que tu fais pour ne pas intervenir? Ce n'est pas possible. Alors Dieu répond. Et Dieu va lui donner une réponse qui va encore un peu plus le déstabiliser. Nous sommes en 609, 608, 607 peut-être, et Dieu lui dit, « Oh, j'ai prévu une solution. J'ai prévu un peuple qui va s'occuper de Juda. J'ai prévu la verge de ma colère, comme il est dit ailleurs. Et ce peuple, il est impétueux, c'est un peuple qui est fou des idoles, c'est un peuple extrêmement orgueilleux, très dur, très brutal. D'autres textes disent c'est le peuple qui est le marteau de toute la terre. C'est un peuple terrible. Les Chaldéens, les Babyloniens. Et ça se préparait. Mais ça n'allait se développer qu'en 605, un petit peu plus tard. Alors vous imaginez notre ami Habacuc qui dit, « Ô Éternel, comment peux-tu vouloir que j'accepte une telle réponse? Comment peux-tu te servir d'un peuple qui est encore pire qu'Israël pour châtier Israël? Comment est-ce possible ?» Et c'est alors que jaillit cette parole de l'Éternel en réponse à la vigilance d'Habacuc qui dit, ben maintenant je vais me tenir là, aux aguets, sur la tour, je suis un guetteur, je veux ta réponse, j'ai besoin de ta réponse. Et c'est alors que Dieu lui dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Elle est même sur le papier maintenant. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Et ça, c'est une accusation au sujet de Babylone, l'orgueil terrifiant de Babylone. Et puis la déclaration qui a été à la base de je ne sais combien de réveils dans l'histoire de l'Église de Jésus-Christ, de la Réformation, c'est Luther, ce sera Wesley plus tard. Hein? Mais le juste vivra par sa foi ou par sa fidélité, par son intégrité, par sa fermeté morale. Le juste vivra par sa foi. Dans cette situation où Habacuc, tu n'y comprends plus rien, je suis un Dieu juste. Sache-le, celui qui veut marcher avec moi de tout son cœur, celui qui se confie en moi, eh bien, celui-là, il vivra. Et puis alors, après, vous avez toute une série de malheurs, cinq grands malheurs de la part de l'Éternel sur Babylone. Un texte prophétique sur le jugement futur de Babylone. Puis le début du chapitre 3, dans le cadre d'une prière d'Habacuc, un véritable psaume d'Habacuc. C'est une vision de la sainteté, de la gloire de l'Éternel qui se met en branle pour le jugement. Quelque chose de bouleversant, quelque chose qui impressionne terriblement Habacuc. Et vous avez la conclusion d'Habacuc au chapitre 3, verset 16. J'ai entendu. Et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Voyez, il peut anticiper maintenant tous les fléaux qui vont tomber sur son peuple à cause de son infidélité. Et il est bouleversé, n'est-ce pas? Il est accablé. Et puis subitement, on le voit qui redresse la tête. Verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux
me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. J'ai noté dans la marge de mon texte, rêve durant la nuit du 5 au 6 septembre 1985. C'est sur ce texte. J'étais tellement troublé, je ne me souviens plus par quelle situation, j'endormais très mal la nuit. Et puis, une nuit, dans mon sommeil, ce texte est venu dans mon cœur. Et je me suis réveillé cette nuit-là en train de dire ce texte. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux. Je veux. Il faut le dire. Je veux me réjouir. Dans cette situation, je vais aller à contre-courant. Seigneur, donne-moi ta grâce. En toi est le vouloir et le faire. Je suis sûr que tu veux me donner de quoi prendre position. Je veux me réjouir en l'Éternel. Ça, c'était la troisième question. Prenons-nous la décision de refuser le découragement comme venant du démoralisateur. Quatrièmement, faisons-nous un pacte avec nos lèvres. Refuser de parler continuellement de nos malheurs avec complaisance, mais plutôt noter sur une feuille toutes les bénédictions qui me viennent à l'esprit. Cinquièmement, avons-nous supprimé tout ce qui nous rappelle les mauvais souvenirs? Sixièmement, quelle place la télévision occupe-t-elle dans notre vie? Terminons-nous nos journées avec elle, très nocif pour le monde de nos pensées. Septièmement, de quelle sorte de littérature nourrissons-nous nos cœurs? Huitièmement, quelle place occupe la contemplation du Seigneur dans sa parole. C'est une source de force, de renouvellement, d'encouragement. Et là, dans cette huitième question, nous avons introduit non pas la deuxième cause de découragement, mais la septième cause de découragement. Et j'ai dit que nous sauterions, pour raison bien sûr de manque de temps tout à fait évidente, par-dessus cinq des causes de découragement. Je vous les cite simplement, mais sans m'y arrêter. La deuxième cause, j'y ai fait allusion un de ces derniers jours, les lendemains de victoire. Un roi 19, c'est une profonde dépression au lendemain d'un haut sommet. Cause numéro 3, le refus de l'échec apparent. Il y aurait eu beaucoup de temps à passer sur toute cette question des échecs dans la vie. Cause numéro 4, le sentiment de solitude. Je n'ai pas dit la solitude. Le sentiment de solitude qui était un gros problème pour le prophète Élie à cause de son tempérament et à cause du type de ministère que le Seigneur lui avait confié. Cause numéro 5, la fatigue physique et nerveuse, puisque manifestement Dieu avait prévu pour Élie un certain régime, à la fois dans le domaine alimentaire, dans le domaine de la marche, dans le domaine du sommeil, tout simplement parce qu'après 3 ans et demi de sécheresse, de famine, de stress, on peut comprendre qu'il y ait eu une usure chez notre ami Élie. Et puis nous aurions pu nous pencher sur une autre cause, la sixième, nos frères. Il est évident que le découragement venait aussi de l'attitude du peuple d'Israël. Alors nous avons dit que toutes ces causes sont sous-jacentes à la première. Et puis nous arrivons à la cause numéro 7. Ce sont les deux causes principales. La première, l'apitoiement sur soi, lié à la septième, une vision déséquilibrée de Dieu. Une vision déséquilibrée de Dieu. Encore une question de regard. Encore une question de regard. Alors permettez que nous nous introduisions, nous démarrions ce thème de la vision de Dieu. Je me réjouis profondément de ce que nous puissions demain terminer sur une exaltation de notre Dieu. Dieu aime être exalté. Et nous sommes dans un monde qui exalte l'homme, qui exalte le péché, qui exalte la technique, qui exalte l'argent, qui exalte la puissance. Nous sommes dans une église de Jésus-Christ qui trop souvent exalte la louange, qui exalte l'expérience, qui exalte les exploits. Une église terriblement anthropocentrique, c'est-à-dire centrée sur l'homme. Et nous devons revenir à Dieu. Toutes les véritables réformes spirituelles, tous les véritables réveils spirituels qui se sont succédés dans l'histoire du peuple de Dieu, de l'Église de Jésus-Christ, se sont traduits par un retour vers la personne de Dieu et vers son Fils Jésus-Christ. Et j'ose l'ajouter, jamais d'abord par un retour vers le Saint-Esprit. Parce que l'œuvre du Saint-Esprit dans le réveil, c'est de remettre la personne de Dieu à sa juste place dans l'existence humaine et dans l'existence de l'Église. L'œuvre centrale du Saint-Esprit, dans tout réveil spirituel, c'est de nous enseigner sur la personne de Jésus-Christ, sur l'œuvre de Jésus-Christ et de rétablir Jésus-Christ et sa vérité sur un piédestal d'où il a été balayé. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit doit être méprisé, qu'il doit être mis de côté, que nous ne devions pas parler de lui, que nous ne devions pas enseigner à son sujet. Ce n'est pas ce que je veux dire. Le Saint-Esprit est Dieu, il est la troisième personne de la Trinité. Il est d'égale essence avec le Père et le Fils. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit collaborent continuellement depuis l'éternité passée jusque dans l'éternité future. Mais chacun dans la Trinité a aussi sa place particulière. Et le rôle du Saint-Esprit dans cette humilité parfaite de la déité, c'est d'exalter le Père et le Fils. Et c'est une des raisons fondamentales pour lesquelles il n'y a jamais dans les Écritures une seule prière au Saint-Esprit. Il n'y en a pas une. N'allez pas me dire, je ne sais pour quelle raison, que dans un texte d'Ézéchiel, je crois 36 ou 37, il est question d'une prière au Saint-Esprit. Faites une analyse du texte et ça vous sautera aux yeux. C'est loin d'être une prière. Il n'y a pas de prière au Saint-Esprit. Tout simplement parce que Dieu sait quels sont nos travers faciles. Et que quand nous commençons à prier le Saint-Esprit, nous sommes tentés de donner de plus en plus de place au Saint-Esprit au détriment du Père et du Fils. Et le Saint-Esprit n'est pas d'accord lui-même. Nous désobéissons, nous attristons le Saint-Esprit quand nous lui donnons une place extrêmement prépondérante qui chasse le Père et le Fils. Il faut le dire. Il faut le dire. Avec le plus grand respect pour chacun, pour quiconque dans l'Église de Jésus-Christ, revenons simplement à ce que dit la parole de Dieu. Je prie le Père, je prie le Fils, parce qu'il y a de manière très claire des prières au Fils et des invitations à la prière au Fils aussi, mais je prie le Père, je prie le Fils, je prie le Père dans le nom de Jésus-Christ. Il est lui la garantie que ma prière sera entendue dans la mesure où je me cache en lui, où je me réfugie en lui, et je le fais par le Saint-Esprit, par le secours du Saint-Esprit, par l'aide du Saint-Esprit, par l'interprétation du Saint-Esprit, qui comprend mes soupirs, qui peut mieux exprimer que moi tout ce que je ressens et que je n'arrive pas à exprimer dans mon langage humain. Restons-en là, n'est-ce pas? Alors Élie, nous l'avons dit, Élie est une forte personnalité. C'est un homme très entier. Il est un défenseur passionné de la justice et de la vérité de Dieu en des temps très difficiles. C'est un homme sans compromis, sensible, Nous l'avons vu très concerné par l'État d'Israël. Il est un héros, A-U-L-T, de la Seigneurie de Dieu. Son nom, d'ailleurs, signale l'orientation de tout son ministère. Son nom avait qualité prophétique lorsqu'il lui a été donné « Mon Dieu est l'Éternel ». La devise d'Élie va dans le même sens. L'Éternel est vivant. Et ce n'est pas une petite déclaration. Elle revient à diverses reprises, chapitre 17, verset 1er, chapitre 18, verset 15. Cette déclaration, l'Éternel est vivant, revient 43 fois dans l'Ancien Testament. Et chaque fois qu'il est dit que l'Éternel est vivant, vous lisez le contexte et vous découvrez les actes du Dieu vivant. Le Dieu vivant qui coupe les eaux du Jourdain devant l'Arche de l'Alliance, Josué et 2 à 3 millions de Juifs qui pénètrent dans la terre de la promesse. Le Dieu vivant qui protège Daniel dans la fosse, Daniel 6. Le Dieu vivant qui triomphe de Goliath, 1 Samuel 17. Le Dieu vivant qui anéantit l'armée du roi d'Assyrie faisant le siège de Jérusalem du temps du prophète Ésaïe et du roi Ézéchias. Le Dieu vivant, c'est-à-dire un Dieu fort, un Dieu puissant, un Dieu impressionnant, un Dieu agissant, un Dieu intervenant dans l'histoire des hommes, un Dieu pouvant être terrifiant. Ça, c'est la devise de notre ami Élie. L'Éternel est vivant. Chez Élie, l'Éternel, c'est le Dieu du mont Sinaï. Celui qui donne sa loi au peuple, qui parle dans le feu, qui parle dans la tempête, Exode 20, 18 à 21, tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait, se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas. » Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Deutéronome 5, 23 à 27. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi. Et vous avez dit, voici l'Éternel, notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi. Écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, tu nous rapporteras toi-même tout ce que dira l'Éternel notre Dieu, nous t'écouterons et nous le ferons. Et c'est le Dieu que nous retrouvons dans la Nouvelle Alliance. Hébreux 10, 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux 12, 29, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Message dans l'Ancienne Alliance, même message dans la Nouvelle Alliance. Et cela me rappelle un épisode fameux vécu en février 1985 avec quelques amis. Il y avait là Alain Choiquier, son épouse, Ralph Chalice et son épouse. Nous étions toute une petite équipe et plusieurs d'entre nous, nous sommes montés, nous traversions les déserts de la péninsule du Sinaï. Nous sommes montés au Sinaï de nuit avec un bédouin qui nous conduisait. Puis, arrivé à peu près aux trois quarts, la tempête s'est déchaînée. Le ciel s'est couvert, les étoiles ont disparu, le blizzard, un véritable blizzard extrêmement froid, s'est levé. Le tonnerre s'est mis à gronder, les éclairs se sont mis à sillonner le ciel, et subitement la neige s'est mise à tomber. Et la couche montait, nous étions en pleine pente, Nous étions, si je me souviens bien, à peu près arrivés, curieusement, à la hauteur de la caverne d'Élie, parce qu'il y a précisément cette caverne d'Élie qui pourrait être aussi l'endroit dont nous parlerons demain, où notre ami Moïse a été protégé de la gloire, de la grâce de Dieu. Mais nous y reviendrons. Et là, le Bédouin nous a dit, écoutez, non, c'est trop dangereux, il ne faut pas continuer, c'est dangereux, il faut redescendre. Et donc, nous sommes redescendus dans la vallée, et le matin, dès l'aurore, je suis parti avec mon appareil photo à travers toute cette région. J'ai fait des kilomètres pour mitrailler le site du Sinaï enneigé. Et d'ailleurs, j'ai eu une surprise, parce que quand je suis rentré à la maison et que j'ai donné mon film à développer, le film était noir. Tout simplement parce que c'était un nouvel appareil et le système d'enroulement du film ne s'était pas déclenché. Donc au lieu de neige, j'avais de l'obscurité. Mais ça a été une bénédiction, chers amis. D'une part, j'ai écrit un article sur ce thème, mais d'autre part, en voyant un petit courrier à quelques amis pour mendier quelques diapos sur le Sinaï enneigé, je me suis retrouvé, tenez-vous bien, avec entre 400 et 600 diapositives, tout le monde ayant été d'une générosité inouïe. C'est ça la grâce, hein, dans l'Église. Hein. Et mes amis, quand nous avons quitté le massif du Sinaï vers 9h du matin, il n'y avait plus trace de neige pratiquement. Les touristes qui arrivaient un peu plus tard ne pouvaient pas savoir qu'il y avait eu là 5 cm de neige et une tempête absolument épouvantable. Mais quand nous étions dans la montée, je me souviendrai toute ma vie, m'être dit « Seigneur, merci ». Bien sûr, c'est une pâle idée de ce que cela a dû être lors de l'intervention de Dieu pour donner sa loi. Mais quand même, nous pouvions un petit peu palper le climat événementiel qui avait eu lieu là bien des temps auparavant lorsque Dieu s'est manifesté dans toute sa gloire. Alors nous sommes en présence, je le disais, du héros de la sainteté de Dieu. Nous sommes en présence de l'homme qui fait descendre le feu de Dieu du haut du ciel. Nous l'avons appelé, vous vous souvenez, le prophète de feu. L'homme austère, au message sévère, chargé de missions redoutables, de missions de jugement, dénonçant clairement le péché, brandissant la loi de Dieu. Un homme terriblement affecté par la dépravation morale d'Israël, qui nage à contre-courant, qui est jaloux de l'honneur et de la sainteté de Dieu. Et puis voilà que maintenant, dans 1 Roi 19, le champion battu prend le chemin du Sinaï. Horeb, c'est le Sinaï. Il prend le chemin de la montagne de la loi de Dieu. En quelque sorte, il est attiré par son affinité avec Dieu dans le domaine de sa sainteté, de sa justice, de sa sévérité, de la nécessité d'obéissance à la loi. Nous sommes toujours attirés vers Dieu par les affinités que nous avons en fonction de notre tempérament, de notre caractère, du climat dans lequel nous évoluons, n'est-ce pas ? Alors lui a été attiré, je dirais, comme par un aimant vers le Sinaï. Peut-être s'attendait-il à être ressourcé par Dieu concernant la vision de sa sainteté, de sa justice. Peut-être s'attendait-il à voir de nouvelles manifestations du feu de Dieu. Or, c'est là qu'il va avoir la grande surprise de sa vie. Celle qui va bouleverser toute la suite et la fin de son ministère sur la terre. Rendez-vous au pied du Sinaï ou dans le massif du Sinaï, mais rendez-vous pour un certain nombre d'entre nous, non pas maintenant, mais demain, pour notre dernière étude.